14h passées de 4 minutes sur France Inter, tout de suite, une journée particulière avec vous, Zoé Varier.
Merci Claire Flochel et à tout à l'heure.
Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Mais vous le savez, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Suzanne Privat. Bonjour Suzanne Privat. Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Suzanne Privat, vous êtes journaliste scientifique, mais je crois que ce qu'il y a de plus important à dire pour vous présenter, c'est que vous êtes une curieuse.
Je crois que c'est le bon mot. Je crois que c'est le bon mot, c'est même quasiment pathologique à ce niveau-là.
C'est-à-dire curiosité dévorante.
Dévorante, envahissante.
Envahissante, c'est-à-dire qu'il faut toujours que vous sachiez pourquoi.
Il faut toujours que j'ai un os à ronger et je le ronge jusqu'à la moelle.
D'accord, et votre mot préféré c'est donc ?
Pourquoi ?
Comment ?
Où ? Jusqu'à quand ?
Et c'est votre curiosité, Suzanne Privat, qui vous a poussé à enquêter sur ce qui se passe dans votre quartier, à Paris, dans quelques rues du 20e arrondissement. Et cela vous a entraîné dans une véritable aventure. Vous avez choisi comme journée particulière un jour d'octobre 2014. Ce jour-là, vous receviez la photo de classe de votre fille.
Souris, Mathias,
souris.
Oui, Titi, oui, Titi.
Mathias, t'as une tête.
J'ai une tête de défoncé.
La position de la photo de classe est ridicule parce qu'il faut mettre les jambes à droite ou à gauche, je sais plus, c'est pareil, où il y a la flèche, et il faut mettre la tête tout droite. Donc du coup, moi, nous, on veut se mettre un peu de profil parce que c'est pas beau d'être tout droit comme ça et de voir que ça.
Parce que la plupart des filles de nos jours ont la tête ronde. Donc si on se met un peu de profil, elle paraît moins ronde.
Vous allez vous mettre par ordre de taille. Derrière ce jeune homme, les plus petits devant et les grands derrière,
ouais,
sur une seule file. Allez, rapidement, place-toi.
C'est pas moi en tout cas.
Allez, on suit. Jeune homme, suivez.
Moi, je suis sur l'étage.
Avance. Les trois filles, suivez.
Moi, je suis pas une fille. Hein.
Ah, vas-y, les trois filles, suivez. Mesdemoiselles, décalez, revenez dans le rond, là. Tirez-vous. Avancez au bord de la table et décalez-vous un tout petit peu pour vous centrer. On regarde ici, on se calme. On se redresse devant, s'il vous plaît. Tu enlèves ça de suite, là. De suite, ok ? À trois, je fais la photo. Allez, 1, 2, 3.
C'est un extrait d'un reportage diffusé dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture. Et moi, quand j'écoute ça, Suzanne Privat, je pense au petit Nicolas. Vous l'avez
tête,
la scène de la photo
bien.
On voit le photographe qui va exploser de colère devant
tous
ces adolescents.
Et les enfants totalement indisciplinés qui n'en font qu'à leur tête.
Bon, Suzanne Privat, en attendant vous aimez regarder les photos de classe.
Oui, j'ai toujours aimé ça. Parce que ça m'invoque de toutes petites histoires, un peu partout. Et j'aime bien imaginer les suivre.
Et alors, vous regardez quoi exactement ?
Je regarde les trombines des enfants, je les regarde grandir au fil des ans, j'essaye d'imaginer quelles sont leurs vies, j'en sais rien, mais c'est pas grave, on s'imagine des choses et c'est très bien.
Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez regardé en octobre 2014 la photo de classe de votre fille ?
Je crois me souvenir que c'était la photo de 5e, elle revient avec ses photos de classe et puis elle aime bien, elle aussi, elle est assez curieuse, elle aime bien disserter sur ses photos de classe et me présenter ses amis. Puis là, elle me présente un garçon qu'elle trouvait plutôt mignon. Et puis un deuxième garçon me disant, tu vois, celui-là, c'est son cousin. Et puis il y en avait un troisième, elle dit, bah, celui-là aussi, c'est son cousin. Je fais, ah, il y a beaucoup de cousins dans ta classe. Et elle me fait, oui, puis en plus, ils s'appellent pas pareil. Enfin, il y en a deux qui s'appellent Mathieu. Et je fais, deux cousins qui s'appellent Mathieu, ça fait beaucoup. Oui, mais ils ont pas tout à fait le même nom. Et bon. Et puis l'année d'après, refoto de classe. On est cette fois-ci un quatrième. Et là, il y avait encore les deux Mathieu et puis un troisième garçon. Et puis elle me dit, celui-là aussi, c'est leur cousin. Ok, ça a commencé à faire beaucoup.
Ça tique, vous
tiquez. Ça tique. Et puis ça s'est reproduit comme ça jusqu'en troisième. Et à mon tour, mon fils est rentré au collège. Et là, soudain, j'ai repéré de nouveaux cousins qu'il m'a indiqué de manière un peu plus récalcitrante, lui, parce qu'il est moins disert. Et je me suis rendu compte qu'un des cousins était le petit frère d'un des anciens cousins. Et puis, pareil, il me cite encore un nom différent que je n'avais pas entendu. Donc, j'avais un corpus de 4 noms désormais. Et puis il me dit, oui, bah oui, qui ne les connaît pas ? Tout le monde les connaît dans mon collège. Ok. Donc, à ce moment-là, les noms ont commencé à me trotter vraiment dans la tête.
Alors, les noms, c'est lesquels?
Les noms, c'était Pincemin, c'était Thibault, c'était Cavagne, essentiellement, les trois premiers.
Et là, vous avez remarqué des traits
J'ai remarqué que plusieurs enfants se ressemblaient sans être frères. Il m'a présenté une fille aussi. Et puis, j'ai remarqué que, oui, qu'ils se ressemblaient. Et puis, j'ai même vu que des vêtements passaient d'une épaule à l'autre. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'original. Et puis, lui, il me soutenait que c'était effectivement une grande famille. Qu'ils étaient tous cousins et puis qu'ils traînaient qu'eux entre eux. Et un jour de désœuvrement, j'ai cherché deux des noms. Et là, j'ai eu une énorme surprise de découvrir un acte de naissance dans la rue où je me trouvais à ce moment-là, mais en 1849. Pourtant, c'est deux des noms que j'avais rentrés. Je me suis dit, c'est bizarre quand même.
Alors là, à partir de ce jour-là, il s'est passé un truc, il s'est passé quelque chose pour vous, Suzanne Privat.
Il s'est passé, je me suis laissée happer par ces noms et j'ai commencé à chercher pourquoi, il y a 170 ans, il y avait déjà des gens qui portaient ce nom-là dans mon quartier. Et puis je me suis rendu compte qu'ils étaient nombreux. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient toujours été là et pas beaucoup ailleurs. Et je trouvais ça étonnant, donc j'ai cherché à comprendre pourquoi.
Alors ça vous a mis la puce à l'oreille, votre curiosité dévorante s'est réveillée, et vous avez voulu en savoir plus, et c'est comme ça que tout a commencé.
C'est comme ça que tout a commencé.
Et en octobre 2014, Suzanne Privat, vous écoutiez ça.
Que je dois te rencontrer,
c'est écrit dans le ciel.
Et que je dois t'adorer,
c'est écrit dans le ciel.
Que je vivrai que pour toi,
c'est écrit dans le ciel.
Et que tu peux croire en moi,
c'est écrit dans le ciel.
N'importe où,
c'est écrit dans le ciel.
Tu auras la télévision,
c'est écrit dans le ciel.
Et le manteau de vision,
c'est écrit dans le ciel. Lay 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 dans le ciel.
Nous vivrons jusqu'à 100 ans. Nous aurons beaucoup d'enfants,
c'est écrit dans le ciel.
4 filles et 3 garçons,
c'est écrit dans le ciel.
C'est la fin de la chanson,
c'est écrit dans le ciel. Dans le ciel.
Si cette chanson vous va,
c'est écrit dans le ciel.
Chantez-la tous avec moi,
c'est écrit dans le ciel.
Dites-la pianissimo,
c'est écrit dans le ciel.
Et maintenant fortissimo,
c'est écrit dans le ciel.
C'est écrit.
Bon, on vous doit, Suzanne Privat, d'avoir écouté ce chef-d'œuvre de Bob Azam.
J'espère vous me remerciez.
Ah, je vous remercie. Mais c'est drôle quand même que vous écoutiez ça.
Oui, j'ai toujours aimé la musique judéo-algérienne, en fait, ça me fait beaucoup rire.
Vous avez raison. Alors, en octobre 2014, Suzanne Privat, vous pressentiez, en regardant la photo de classe de votre fille et puis de votre fils, qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière les noms de famille Pincemin, Cavagne, Boucher
et Thibault.
Et Thibault. Il faut dire que vous n'étiez pas la seule à être intriguée dans le quartier par ces familles.
Oui, parce que je suis curieuse et aussi bavarde, j'en ai parlé autour de moi.
Et il y avait des rumeurs qui couraient.
Il y avait des rumeurs que j'ai captées, dont j'ignorais l'existence jusqu'à présent.
Alors qu'est-ce qu'elles disaient, ces rumeurs?
Ces rumeurs, elles disaient que ces enfants que j'avais vus sur les photos appartenaient à un groupe dont on ne savait pas très bien qui ils étaient, si c'était des mormons, si c'était des témoins de Jéhovah. Il y avait quelque chose de religieux hein, dans la définition du groupe qu'on en donnait, mais c'est surtout, on disait que c'était des enfants qui restaient beaucoup entre eux, qui ne fréquentait pas les autres et qui était un petit peu à l'écart du monde. Moi, c'est parce que j'en voyais. Moi, je voyais des enfants souriants et ma fille me disait que c'était des enfants souriants et avec lesquels elle s'amusait comme une enfant de son âge. Et ça m'a intrigué, ce delta entre ce qu'on me disait et ce que j'en percevais. Donc, une fois que j'avais trouvé cet acte de naissance, j'ai cherché à en savoir un peu plus.
Alors, vous vous êtes abandonnée à votre curiosité, Suzanne Privat. Vous avez acheté un carnet.
J'ai acheté un carnet.
Et vous avez écrit, vous vous souvenez des premiers mots que vous avez écrits?
J'ai écrit ces gens-là, je crois, parce que c'était quelque chose qu'on vous disait beaucoup. On disait la grande famille. J'ai écrit ça aussi. J'ai écrit cousins, tous cousins. Et je ne sais plus d'où j'ai écrit d'autres choses. Mais...
Enfant en colère.
Enfant en colère, oui, parce qu'il y avait un enfant qui se débattait un peu contre lui-même en classe et qui était franchement dissipé et qui posait souci à l'équipe éducative.
Vous avez écrit Mère Sereine.
J'ai écrit Mère Sereine parce que ça, une voisine m'en a parlé à un café du matin en me disant qu'elle elle était médecin. Et elle me disait qu'elle avait vacciné des enfants, mais tout un tas d'enfants d'une seule famille, en me disant qu'elle avait vacciné un bébé d'une dame, qui en avait 10 déjà, et un 11e en cours. Et elle me disait que c'était une mère sereine qui avait l'air très épanouie dans sa maternité. Et qu'elle ne comprenait pas, parce que 10 enfants, ça lui semblait insurmontable.
On comprend. Et vous écrivez aussi les filles qu'on ne peut pas pécho.
Les filles qu'on ne peut pas pécho, parce que j'ai repéré sur Facebook un groupe qui s'appelle « Tu sais que tu es du 20e camp » et dans lequel on disait « Tu connais des cavagnes et des pincements et elles sont très belles et tu ne peux pas les pécho ».
Donc c'est pour ça que vous aviez écrit aussi sur votre premier carnet qui débutait votre enquête. Et vous avez donc commencé à faire des recherches sur Internet en saisissant d'abord...
les noms que je connaissais.
Les noms de famille. Et là, vous êtes tombé sur l'occurrence, le mystérieux kibboutz...
De Pardaillan.
Et vous découvrez qu'il existe un reportage de 5 colonnes à la une.
Exactement.
Qui date de 1961 et qui s'intitule « Un kibboutz en France ».
5 colonnes à la une.
Il y a un an, avant que commence l'aventure qui fait l'objet de cette enquête, voilà les seules images que pouvait offrir le plateau de Pardaillan, à 40 km de Béziers. Ce spectacle, qui est aujourd'hui celui de 350 villages français, il a un nom dans les dossiers des administrations et des ministères. On l'appelle le drame des villages abandonnés. Et puis un jour, ça a recommencé, non pas la guerre, mais la vie. 80 personnes venaient de s'installer à Pardaillan, 80 Parisiens, pour tenter une expérience unique en France, établir ici une communauté agricole comme on en trouve en Israël. À cause du modèle, peut-être, leur histoire se raconte comme une parabole de la Bible. Ils vivent tous dans le même arrondissement de Paris, le 11e. Ils sont tourneurs sur métaux, ébénistes, mécaniciens, fondeurs chez Renault, chef d'équipe. L'un d'eux, Vincent Thibault, a passé un an dans un kibboutz, une ferme collective en Israël. Ce qu'il a vu là-bas, il le raconte à ses parents, à ses amis. C'est la révélation d'une autre vie. Comment chacun s'est décidé, comment ils ont quitté leur quartier, leur maison, leur métier, vous le saurez, ils nous l'ont dit. En mettant leurs biens en commun, ils trouvent à louer ces 300 hectares de terre abandonnée. Faire revivre la terre abandonnée, voilà ce qu'ils ont fait écrire dès les premiers jours sur le papier à lettres en tête de la communauté.
Alors Suzanne Privat, ça c'était l'introduction de 5 colonnes à la une. Le reportage dure à peu près 15 minutes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage quand vous l'avez vu?
J'ai trouvé que c'était un formidable voyage dans le temps.
Ouais.
J'ai vu des gens très fiers de ce qu'ils faisaient. J'ai vu aussi un chef, le Vincent Thibault auquel il est fait allusion, qui était vraiment un chef et qui était très imbu de sa position de chef. J'ai vu des gens qui croyaient en quelque chose qu'ils ne nommaient pas. Et une incroyable ferveur.
Alors on apprend qu'ils ont tout vendu,
ils ont tout vendu
dans ce reportage et qu'ils ont tout mis en commun, l'argent en commun, pour s'acheter des super tracteurs.
Ils ont récupéré, je crois, environ 30 000 francs pour se lancer dans l'aventure, sachant qu'ils étaient 80. Ils ont récupéré des super tracteurs, ils ont un matériel flambant neuf, mais à peu près zéro compétence en agronomie. Et du coup, ça va peut-être un petit peu leur jouer des tours par la suite.
Mais on ne sait pas qui ils sont, en fait. Sur le fond,
on sait dans le reportage que ce sont des ouvriers.
Voilà.
Des ouvriers plutôt de l'aristocratie ouvrière de Paris. On sait qu'ils viennent du 11e arrondissement, mais on n'en sait pas plus. On voit que ce sont des gens assez jeunes, pour la plupart, par contre.
Alors, le reportage de 5 colonnes à la une entretient le flou.
Complètement.
Mais il y a un passage qui a retenu votre attention et qui a retenu la mienne aussi. C'est quand le journaliste interroge les adolescents du kibboutz.
envie un soir descendre un samedi soir. Vous avez des voitures ici, vous pourriez le faire.
Bien sûr, si on n'a qu'à demander aux responsables.
Vous n'en avez pas envie?
Non. On pourrait faire un bridge ici, ou jouer à plusieurs jeux.
Oui, vous êtes des garçons très sages, quoi.
Oh, sage, n'exagérons rien, enfin.
Pas la chance que vous avez mieux.
Oui, enfin, ou lutte.
Qu'est-ce que vous faites le soir? Vous êtes ici?
Oui.
D'ailleurs, on a un jeu de cartes ici, on a tous les jeux qu'on veut ici.
Alors, vous vous mettez comme ça devant la cheminée?
Oui.
Ou à table, ou alors on prend un livre, on lit là où on peut lire dans le livre.
Vous discutez?
Ou on discute.
De quoi?
Sport, ce qu'on a fait dans la journée, ou sur un livre, par exemple, qu'on a lu dans la semaine. Chose comme ça.
Dans le passoir, là, vous couchez à deux.
Oui, oui.
Hein?
Oui, oui.
Dans chaque lit. Ça vous gêne pas, ça?
Vous
êtes jamais seul, quoi, finalement?
Non, non, jamais.
La solitude, j'aime pas ça.
Moi non plus.
Moi ici, bon. Ça donne des idées, c'est jamais bon.
La solitude, ça donne des idées, c'est jamais bon. Le journaliste dit que ce sont des jeunes hommes un peu inquiétants. C'est ce que vous avez pensé, vous aussi, en les regardant?
Indéniablement, en les voyant, oui.
Pourquoi?
Ils sont quatre, ils sont alignés, ils ont un sourire crispé. Et la solitude, c'est pas bon. C'est clair, c'est le message. Ils sont toujours en groupe, ils ne vivent que par le groupe. C'est évident quand on les voit tous les quatre. Il y en a un qui se tient à distance, dont on voit qu'il est mal à l'aise. Les autres répondent à peu près poliment, en justifiant leur posture, de manière très affirmative, et on voit bien qu'ils n'en pensent pas moins.
Alors, à vous écouter, Suzanne Privat, on comprend que vous avez visionné le film plusieurs fois.
Oui, je ne saurais les compter.
C'est-à-dire à la recherche d'indices?
À la recherche de traces. D'indices, je ne sais pas, parce que je ne suis à la quête de pas grand-chose, mais ces voix me plaisaient, l'accent parisien de l'époque me plaisait, tout me plaisait, le cadre était romantique à souhait. Et il y avait quand même quelque chose d'inquiétant, de distillé dans les images. Je pense que c'était assez sciemment de la part du journaliste. Les femmes, telles qu'il les montre aussi, sont toujours en retrait. Et il y a vraiment un effet de groupe qui est en lui-même assez inquiétant.
Et puis, vous avez continué vos recherches? Parce que là, à ce moment-là, vous vous dites quoi, Suzanne Privat? Vous en êtes où?
Je me dis, effectivement, ils sont bizarres. Mais je ne sais pas encore le lien entre ces noms, ces gens qui portaient ces noms, et les enfants que je vois. Parce que moi, les enfants que je vois, ils sont beaucoup plus festifs. Ils ont l'air tout à fait normaux. Donc, j'ai un décalage que je comprends pas bien. Et c'est ce décalage qui m'interpelle.
Ce décalage entre ce que vous voyez à Pardaillan, oui, donc dans ce village quasi abandonné, et ce que vous voyez tous les jours dans la rue.
Est-ce que je vois tous les rouges tous les jours dans la rue, parce que moi, je commence à essayer de les reconnaître aussi. Et il y a quelque chose qui colle pas.
Alors vous allez continuer, vous allez chercher, et puis là, vous allez tomber sur un autre reportage qui jette un tout autre regard sur cette communauté de Pardaillan. C'était dans l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture en 2012, je crois. Et on y interrogeait justement les habitants de Pardaillan sur, à propos de l'installation de ce mystérieux kibboutz dans le village.
Il n'y avait plus pratiquement plus de paysans sur la commune de Pardaillan. C'était un village qui se mourait. Il y avait combien? 3, 4, 5 familles. Donc, vous vous rendez compte, 80 personnes qui arrivent, qui occupent toutes ces maisons qui étaient fermées, elles se rouvrent. Enfin, tout ça, ça crée une vie. Mais vous vous rendez compte, des enfants, ça crée une autre vie.
Leur religion, on ne la connaissait pas. On supposait qu'ils étaient juifs, mais je ne pense pas.
Parce que les femmes portaient des foulards. C'est ça qui a fait penser.
Et puis ils avaient les toiles.
Ils étaient juifs. Mais bon.
Ils appartenaient à une secte qui s'appelait les flagellants de Saint-Médard. Je ne sais pas moi si ça existait ou pas. Ces personnes nous l'avaient dit. Et notamment, je vais te dire qui c'est qui l'avait dit à la maison chez nous, parce qu'il venait. C'était Raoul Bayou. Il dit, moi je peux te dire, hein. Moi j'ai à Paris là-haut parce qu'il était député. Ce sont des flagellants de Saint-Médard. Maintenant, ces flagellants, je ne sais pas qui flagellait, mais en fait.
Suzanne Privat, vous avez bien rigolé en écoutant cet habitant de.
J'adore les flagellants qui flagellent, avec tous ces L dans le mot.
Ah oui, et alors les flagellants de Saint-Médard, c'est quoi?
Eh bien, ils n'existent pas, en fait. Ce brave monsieur emploie une expression qui n'est pas la bonne. En fait, il s'agit de convulsionnaires de Saint-Médard, ce qui est à peine moins romantique, en fait. Moi, j'ai d'abord cherché flagellant, parce qu'on me dit flagellant, je cherche flagellant, et je n'ai rien trouvé, pour cause. Mais un jour, en me promenant par hasard près de l'église Saint-Médard à Paris, je suis tombée sur un panneau qui parlait là des convulsionnaires de Saint-Médard. Et c'est là que je me suis dit, ah, on est peut-être plus proche de la vérité. Et donc les convulsionnaires de Saint-Médard sont des jansénistes, tardif, le jansénisme étant un courant religieux qui s'est construit au XVIIe siècle autour de la notion de la grâce augustinienne, qui est un courant qui s'est rebellé contre les ors de la papauté, qui prenait une religion plus humble, plus proche de la terre et des hommes. Et les jansénistes se sont construits autour de cette lutte contre la papauté. Et le courant a émergé et est devenu assez puissant au début du XVIIIe siècle. Mais c'est au moment aussi où il a commencé à dériver vers quelque chose de plus extravagant dans ses manifestations. Et les convulsionnaires.
Ouais. D'où la convulsion.
Les convulsionnaires étaient des gens qui rentraient donc en convulsion, c'est des trans extatiques, dans un cimetière, dans le cimetière de l'église de Saint-Médard, où était enterré un diacre qui s'appelait Paris, qui était un religieux qui était vénéré par les jansénistes. Et quand il est mort, il y a eu tout un engouement autour de sa tombe, et où des gens ont commencé à avoir des trans mystiques, qui a beaucoup inquiété la police parisienne, qui a fini par fermer les lieux. Et ce qui a créé une sorte d'engouement populaire autour des gens qui avaient convulsé. Et le mouvement s'est perpétué tout au long du XVIIIe siècle.
Alors tout ça, Suzanne Privat, vous l'avez appris à force de rechercher.
J'ai appris à force de rechercher. Alors heureusement, il y a des travaux d'historiens qui ont été consacrés à ce sujet, dont certains sont écrits par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Chantin, qui a écrit des livres assez conséquents sur le sujet. Et c'est là que j'ai découvert l'existence de deux frères un peu étonnants qui relevaient du courant convulsionnaire, mais là, sur le coup, avec une vision légèrement décadente du courant, qui s'appelaient les frères Bonjour.
Après, j'ai vu le nom bonjouriste. C'est
ça vient d'eux.
Ça vient d'eux.
Ce sont deux prêtres de l'Ain, du village de Farins exactement, qui étaient deux curés jansénistes confessionnaires, dont l'un des deux a commencé à pratiquer des choses que la communauté catholique voyait d'un assez mauvais œil, puisqu'il a commencé à crucifier des femmes dans son église, et qu'il avait par ailleurs des relations qui n'avaient pas grand-chose de religieuse avec elle. Et donc ce père Bonjour s'est fait foutre dehors de son église, a été emprisonné, et s'est enfui de prison avec son frère, et a commencé à mener un exil qu'il a amené à Paris.
Ah.
Et c'est en arrivant à Paris qu'il a fait souche. Il était venu à Paris avec sa femme. Oui, puis il avait une femme, c'était un curé.
Qu'il ne l'avait pas crucifié,
avec sa femme et la servante de celle-ci, et il a fait un enfant à chacune. Et le deuxième de ses enfants, qui était l'enfant de sa compagne officielle, il a décidé que c'était le prophète Élie, c'était la résurrection du prophète Élie, et qu'il était aussi le Messie, et que c'était une sorte d'enfant-dieu qu'il convenait de vénérer.
Alors, mais quel rapport avec les gens que vous voyez dans la rue ?
Et c'est là que ça devient fabuleux. C'est qu'autour de lui s'est agrégé tout un tas de gens qui étaient prêts à croire à cet enfant Élie. Et notamment, des gens qui étaient de souche populaire pour la plupart. Et dans le lot, il y avait un vigneron qui s'appelait Jean-Pierre Thibault.
Ah !
Il y avait
qui était de la famille du Thibault qui est allé en Israël.
Qui était son ancêtre direct. Qui était un vigneron d'Épinay-sur-Seine. Qui était venu à Paris pour je ne sais quelle raison, mais dont une chose est sûre, c'est qu'il était le portier des frères Bonjour à Paris. Et parmi eux, il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Brun, qui était un épicier, mais un épicier qui s'était marié avec une femme issue de la noblesse de robe, et qui lui aussi était un convulsionnaire notoire, enfin sa femme était une convulsionnaire notoire, et ils se sont rencontrés autour de cet enfant Bonjour, qui s'appelait Élie, qu'ils appelaient le petit Lili. Et autour d'eux a commencé à s'agréger une petite communauté qui était tout à fait convulsionnaire et très extatique et très mystique.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
God knows des Beach Boys, c'est parfait pour nous.
C'est très bien. Je pense qu'on est pile dans la thématique.
On a une famille, des frères, un cousin, un ami qui font Exactement. De la musique ensemble. Ça colle bien.
Ça colle bien.
Donc là, Suzanne Privat, on a compris comment s'est constituée une communauté.
Ce sont les tout débuts d'une communauté autour de l'Enfant Bonjour. C'est constitué une communauté qui va grandir tout au long du 19e siècle. En agrégeant d'autres familles venues de partout dans la France et arrivé à la fin du 19e siècle, il y a environ 9 familles.
8 familles dans Paris.
Dans Paris, exactement rue de Montreuil. C'est vraiment la via sacra de la famille. Pour une simple raison, c'est que le petit Lily, à un moment, il a dû aller en Suisse parce que sa famille avait été exilée. Et il a dit à l'enfant Thibaut, qui était tout petit, il lui a dit « Attendez-moi là, je reviendrai vous chercher ». Et l'enfant Thibaut a tenu parole, il a attendu là et ils attendent encore à peu près là.
Ah, ils attendent que le Messie vienne les chercher ?
Ils attendent que le Messie vienne les chercher.
Alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de Suzanne Privat et on continue à suivre le cours de votre enquête sur ces gens singuliers donc, qui attendent le Messie dans votre quartier,
oui.
À Paris. Mais Suzanne Privat, un matin, en voyant votre fille pianoter sur son téléphone portable... Et aller sur Instagram particulièrement, ah oui. Vous avez eu envie de faire la même chose et de voir si sur Instagram, vous retrouviez les stories des enfants de ces familles, pincements, etc., etc.
J'ai fait exactement ce que j'avais fait sur le moteur de recherche. J'ai rentré quelques noms. Et ça a fait florès tout de suite. J'ai trouvé tout plein de gens qui portaient ces noms-là, des très jeunes, pour la plupart de l'âge de ma fille ou un tout petit peu plus vieux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un réseau social qui existait au sein de la famille et que ces gens n'avaient pour amis sur les réseaux que les gens qui portaient c'est les noms que j'avais repérés.
Les huit autres noms
que j'avais repérés. Et ils étaient tous ensemble et ils ne communiquaient qu'entre eux. Et pour les plus jeunes, les listes n'étaient composées que de ces noms-là. Il n'y avait absolument personne d'autre.
Et qu'est-ce qu'on voyait sur ces stories ?
On voyait des enfants, sur le coup, complètement comme les autres.
C'est-à-dire
On voyait des virées sportives, on voyait des concerts, on voyait des enfants en train de se chamailler, on voyait des petites vidéos où les filles chantaient sur du Ariana Grande, donc c'était des enfants totalement comme les autres, sauf que les photos de profil étaient singulièrement bizarres.
Pourquoi ?
Parce qu'ils étaient parfois 3-4 sur les photos de profil.
J'ai jamais seul.
Et là, forcément, ça a fait écho parce que j'ai quand même une assez bonne mémoire et je me suis souvenu de ce jamais seul. Et effectivement, ils ne sont jamais seuls.
Ce jamais seul de 5 colonnes à la une.
Ce jamais seul de 5 colonnes à la une qu'on entendait prononcé par un adolescent. Eh bien, soit 50 ans après, 60 ans après, les enfants ne sont toujours pas seuls.
Donc en somme, des jeunes gens a priori comme les autres, mais jamais seuls. Mais faisant des soirées arrosées, faisant prenant du bon temps, habillés comme basket, jean.
Jean, basket, t-shirt, crop top pour les filles, les garçons tout à fait normaux, avec effectivement des habitudes festives qui étaient manifestes sur les photos.
Oui, c'est-à-dire on aime bien boire un coup. Donc des jeunes gens a priori bien loin du témoignage d'un certain Florent que vous allez découvrir encore une fois dans cette même émission sur France Culture, dans La Fabrique de l'Histoire, une émission qui a été diffusée en 2017 qui s'intitulait « Du mystérieux kibboutz à Pardaillan à la communauté parisienne ».
Le pire pour moi dans cette communauté-là, c'est qu'on éduque les enfants en leur enlevant leur liberté de penser. C'est-à-dire qu'on arrive à l'adolescence, en vérité on n'a pas trop le choix. C'est soit on vit comme la communauté, alors que moi, je peux vous assurer que avec mes amis de l'époque, quand on avait 14-15 ans, on avait tous le même discours. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était une secte et que c'était pas normal. Et voilà. Sauf qu'après, quand on doit faire des choix de vie, on est un peu perdu. On connaît qu'une manière de vivre. Et je pense qu'il y a plein de gens à l'intérieur de cette communauté qui, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand même, commencent à se poser les bonnes questions. Sauf que le problème, c'est que dans cette communauté, à 40 ans, on a déjà une dizaine d'enfants qu'on a déjà commencé à éduquer dans certains rythmes. Il y a le regard des copains. Comme toute communauté fermée, le regard de l'autre est très important, parce qu'il suffit qu'on ait une étiquette dans ce milieu-là, et puis c'est fini. Et je pense que les gens se posent les bonnes questions à la fin de leur vie, quand ils ont un peu plus de vécu, et puis c'est trop tard. Parce que aller dire après à vos 10 gamins, qui ont déjà chacun 3-4 gamins, voilà, vous êtes le patriarche, vous avez déjà mis des torioles à vos mômes pour pas qu'ils fréquentent la gentilité ou pour ci ou pour ça, pour des histoires à la con. Après dire, peut-être je me suis trompé, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut affronter tous ses frères et sœurs, tous ses oncles, tous ses tantes. Si à 40 ans, d'accord, ses parents, il faut affronter ses parents, ses grands-parents. Et puis après, il faut affronter donc ses enfants, ses petits-enfants. C'est trop compliqué. Le chantage affectif est trop intense. Surtout que tout le monde, à l'intérieur de cette communauté, tout le monde a douté un jour.
C'est un témoignage très intéressant, ce témoignage de Florent, qu'on entend donc dans la Fabrique de l'Histoire, qui dit « tout le monde a douté un jour », qui est quelqu'un qui a fait partie de ces 7 familles et qui en est parti à essayer de...
Oui, en courant à 16 ans.
En courant à 16 ans, vous allez nous raconter son histoire. Mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur un mot, Suzanne Privat, c'est sur la gentilité. Qu'est-ce que c'est la gentilité ?
Alors la gentilité pour les juifs, ce sont les non-juifs. Et par assimilation, pour les gens de la famille, ce sont les gens qui ne sont pas de la famille, c'est-à-dire le reste du monde.
Le reste du monde, parce que vous dites la famille, c'est-à-dire que ces 8 familles
ne constituent qu'une seule et unique famille.
Et qu'on appelle la famille.
Qu'on appelle la famille. C'est Florent qui le dit dans le reportage, et j'ai appris par la suite que tout le monde le disait. Donc la famille est devenue la marque de cette grande famille.
Donc Florent, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il part en courant à 16 ans ?
Florent, il part en courant à 16 ans parce qu'il il réalise que le milieu dans lequel il a grandi n'est pas propice à l'épanouissement d'une individualité et qu'il a été contraint à une religion qui ne le concerne pas forcément et surtout qu'on l'a privé de sa liberté de penser et que le groupe l'étouffait. Donc il a cherché à se libérer, donc il est parti très tôt pour voir le vaste monde. Et la première chose qu'il m'a raconté pas plus tard, c'est qu'il a été voir, je crois, les scientologues, pour voir à quoi ressemblait une secte. Et il en est revenu en se disant que la communauté dans laquelle il avait grandi, c'était peut-être pas une secte, mais c'était au moins quelque chose qui s'y apparentait. Donc il est parti en se disant qu'il allait construire sa vie tout seul, donc ça a été difficile. Il a lutté, il a trébuché, et à un moment, c'était trop dur, il est revenu vivre avec sa mère. Et en revenant vivre avec sa mère, il s'est rapproché forcément de la communauté, parce que sa mère n'en était jamais partie. Et il est tombé amoureux d'une fille de la communauté, avec laquelle il a fait 4 enfants.
Et puis il est reparti.
Et il est reparti. Il a essayé de partir avec elle. Je crois qu'ils ont essayé de construire leur vie. Mais c'était trop dur, parce qu'elle avait vraiment jamais connu autre chose. Et comme il l'explique dans cette interview, quand on a grandi dans la communauté, on n'a pas les codes de la société. Donc on est vraiment formaté par la communauté, on ne connaît que ça. Et donc la société apparaît comme un monde hostile dans lequel on n'a pas envie de se jeter. Et elle était trop isolée du reste de sa famille pour supporter ça, et elle est revenue.
Alors, vous, Suzanne Privat, vous l'avez rencontré.
Je l'ai rencontré.
Ce Florent. Vous l'avez rencontré dans des circonstances particulières?
Alors, je l'ai beaucoup cherché parce que quand je l'ai entendu sur ce reportage de France Culture, sa voix m'interpellait. Il avait quelque chose d'assez urgent dans la voix. Et je l'ai cherché et j'ai trouvé d'autres traces sur Internet de quelqu'un qui dénonçait les mêmes travers de cette communauté en signant avec un autre nom. Mais cette personne n'avait laissé que très peu de traces. J'ai fini par comprendre pourquoi. J'ai fini par comprendre qu'en fait, cette personne avait passé un séjour en prison. Et j'ai eu la chance phénoménale que, à un moment, en sortant d'un film qui parlait d'une secte, j'ai repensé à cet homme. Et le lendemain, je l'ai cherché et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il venait de sortir de prison, qu'il avait laissé une trace sur une page Facebook. Et deux jours après, il a posté un lien vers une autre page Facebook qui comportait les archives de la communauté. Et qui expliquait ce que c'était le monde, ce que c'était que la gentilité, ce que c'était que tous ces concepts qui n'étaient pas très clairs pour moi.
Et il se trouve que c'était Florent. Qui sortait de prison. Il était resté combien de temps en prison?
Il était resté, je crois, 14 ou 17 mois, je ne sais plus exactement.
Alors, grâce à lui, vous avez compris plein de choses.
Grâce à lui, j'ai compris, j'ai abouti tous les petits morceaux de puzzle que j'avais glanés ici et là jusqu'à présent.
Alors, vous avez compris, entre autres... L'histoire, enfin l'existence d'un personnage central
oui.
pour la famille, c'est Oncle Auguste.
C'est mon Oncle Auguste,
pardon,
exactement.
Mon Oncle Auguste.
Le possessif est important parce que c'est l'oncle de toute la famille. Et mon Oncle Auguste, c'est un homme qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1920, qui était comme les autres, un ouvrier parisien, qui a eu une vie un peu tourmentée, qui a eu perdu beaucoup d'enfants, qui a changé longtemps plusieurs fois de métier, plusieurs fois d'habitation. Et à chaque fois, il s'appelait au départ Augustin. Et à chaque fois, il change un petit peu graduellement de nom aussi. Et pour finir Auguste. Et pour finir par quitter Paris. C'est le premier à avoir quitté Paris. Et par s'installer dans une petite ville de banlieue qui s'appelle Villiers-sur-Marne. Où il décède en 1920. Et cet oncle Auguste-là, il est réputé pour avoir fermé la famille. Donc quand on dit fermé, c'est qu'il a dit qu'à ce moment-là, il y avait 8 familles, que 8 familles, c'était le numerus clausus, qu'on n'irait pas plus loin, et que ces 8 familles devraient désormais se débrouiller seules.
C'est-à-dire en endogamie intégrale.
En endogamie intégrale, sachant que jusqu'à présent, la famille était déjà, la communauté était déjà assez endogamique, mais il y avait quand même des apports de sang nouveau, ne serait-ce que justement pour sans doute renouveler le patrimoine génétique. Et puis parce que plus on était nombreux, plus ça faisait corps. Et lui, il a décidé que non, ça suffisait. Donc à partir de ce moment, c'est-à-dire à partir de 1892 très exactement, la famille est devenue strictement endogame. On ne rentre plus dans la famille.
Et c'est lui aussi qui est à l'origine de tous les interdits.
Oui, il a fixé toute une liste d'interdits. Je pense qu'il s'est prophétisé lui-même. Il a décidé tout un tas de règles de vie que la famille suit encore plus ou moins.
Plus ou moins. Alors par exemple, sur l'apparence, on ne portera pas de vêtements blancs. Parce que personne n'est assez pur pour mériter cette couleur divine. Ou rouge, la couleur du malin. Dans la famille, les filles ne couperont pas leurs cheveux, car elles doivent pouvoir se draper dedans pour paraître devant l'Éternel. On ne votera pas, car on ne souhaite pas participer à la course du monde. Dans la famille, on ne partira pas en vacances. On prendra soin de rester aux abords de la rue de Montreuil. Je vous lis, et sauf exception, de ne pas dépasser le bois de Vincennes. Et puis, c'est aussi l'oncle Auguste qui a décidé, par exemple, alors ça m'a glacé le sang, qu'on sera enterré dans une fosse commune.
Oui, il a décidé de tout cela. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en reste ? Sur l'apparence vestimentaire, pour les jeunes gens, presque plus rien. Les filles portent certes assez souvent les cheveux longs, mais évidemment elles les coupent de temps en temps. Je ne sais pas s'ils votent. Ils partent en vacances sans aucun problème. Quant à la fosse commune, elle n'existe presque plus en France. Il faut vraiment être très déshérité pour avoir la fosse commune. En revanche, ils sont enterrés dans quelque chose qui s'appelle le champ du commun, dans un cimetière de la banlieue parisienne, dans des tombes qui sont, je crois, anonymes. Et individuel, mais anonyme. Donc ce sont de grands carrés blancs dans le cimetière de Thiers.
Vous y êtes allé?
Oui.
Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce que l'oncle Auguste a imposé?
Il reste l'interdiction de fréquenter le monde. Et l'endogamie stricte. Et une sorte de... Une foi sans doute ardente chez beaucoup de membres, y compris chez les plus jeunes, mais ostracisante en fait. Le monde est vraiment vu comme quelque chose de négatif auquel il ne faut pas se mêler.
Ce qu'il faut qu'on comprenne en vous écoutant, Suzanne Privat, c'est que pendant que vous faites cette enquête sur la famille, vous continuez à les voir dans la rue.
Je continue à les voir dans la rue et je continue beaucoup à les voir sur les réseaux sociaux parce que je suis devenue, là sur le coup, je me suis laissée happer par les réseaux sociaux. Et en entrant par une jeune fille, que j'appelle Colombe, j'ai découvert ses amis, son cercle proche et moins proche. Et le décalage était vraiment très manifeste entre ce que me disait Florent et ce que je voyais. Mais sauf qu'il y avait quand même des indices. Je me suis rendu compte qu'effectivement, on se mariait très jeune. Colombe, à un moment, dit « Ah, ce sont les premiers de 2001 ». C'était les premiers fiancés de 2001. Donc on se marie, en l'occurrence, ils avaient 19 ans.
Vous vous rendez compte aussi que le samedi, effectivement, comme l'avait dit l'oncle Auguste, un samedi par mois, tous les hommes se retrouvent.
Et alors ça, moi j'habite juste à côté du bistrot.
Dans un café
dans un bistrot du quartier. Je l'avais déjà repéré, ce bistrot, parce que certains samedis, il est particulièrement bruyant. Et y a une foule d'hommes très expressif qui se trouve dedans, dans lequel l'alcool n'est pas pour rien, je pense, l'expressivité de la joie. Et Florent me dit qu'il y a aussi un café où les jeunes se rencontrent après l'école, où j'ai été. Et effectivement, il y avait des jeunes que j'avais vus sur les réseaux sociaux, que j'ai retrouvés sur les sièges du bar, qui sont là pour faire la fête et aussi pour se rencontrer et pour se draguer, dans le seul et unique but de trouver l'amour de sa vie.
Et Florent vous a fait comprendre l'importance de l'alcool dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'alcool.
Il y a beaucoup d'alcool. L'alcool est un liant. Ça rassure. N'importe quel consommateur d'alcool à haute dose pourra vous dire que ça rassure. Et surtout, ça donne l'impression d'être cool. C'est assez désinhibant. Et du coup, ça permet de passer assez vite à des rencontres amoureuses dont il faudra qu'elles durent toute la vie.
Et tout ça au vu et au su de tous dans le quartier, c'est-à-dire ces femmes habillées en gris, les scripts...
Alors, c'est les femmes habillées en gris auxquelles vous faites allusion, ce sont les tantes. Ce sont des femmes célibataires pour la plupart, entre 45 et 75 ans, qui sont chargées de l'éducation des plus petits, parce que certains des enfants ne vont pas à l'école. La plupart sont scolarisés normalement, mais certains ne vont pas à l'école, et ce sont les tantes qui s'en occupent. Et les tantes sont aussi chargées de recopier les milliers de lignes de l'histoire de la famille, de prières qui se véhiculent dans la famille, parce que c'est quand même une communauté religieuse d'obédience janséniste, il faut le rappeler, et qui a une culture pieuse très très importante. Ça occupe une part considérable dans l'existence, non seulement des tantes, mais aussi de tous les membres les plus religieux de la famille.
Je vous propose qu'on écoute encore une fois Florent.
Moi, si je parle de mon cas, moi, en primaire, j'avais 7 cousins dans ma classe. Ouais. Donc, on était les seuls à ne pas partir en vacances de neige ou en vacances vertes, en classe verte. Et voilà, c'est assez particulier. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans le quartier, tout le monde nous connaît. Tout le monde nous connaît. Il y en a qui nous appellent les témoins de Jéhovah, il y en a d'autres qui nous appellent les mormons. Mais personne ne sait. Personne ne sait exactement qui on est. Et à l'école, les professeurs, à la mairie, dans les services HLM ou dans les services funéraires ou les rites obligatoires de la vie, les gens nous connaissent. Parce que c'est assez spécial quand même, 8 noms de famille comme ça qui se marient depuis plusieurs générations ensemble, ça fait forcément tilt.
HLM, PMI, services sociaux, tout le monde les connaît dans le quartier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui.
Hein, Suzanne Privat, au vu et au su de tous. Mais ils sont combien à peu près?
Ils sont environ 3000, peut-être un peu plus.
Peut-être un peu plus, autour de 3000.
Oui.
Mais ce qu'on ne sait pas, ce que vous nous avez appris, c'est que chacun d'entre eux porte sur lui la lettre de mon père.
Oui, qui est un texte du début du XVIIIe siècle, écrit par un religieux, qui est un texte assez terrible de contrition que les enfants doivent garder autour d'eux en permanence et, si possible, écrire de leurs propres mains quand ils ont l'âge de 10 ans.
Et vous l'avez vu, vous avez
vu. Et je l'ai vu, j'ai eu, c'est pareil, c'était une sorte de chose un peu incroyable. Je prends un métro un jour pour rejoindre une copine. À côté de moi monte un homme qui s'assoit, qui sort une chemise dans laquelle il y a un texte. Et je m'aperçois que c'est une lettre manuscrite avec une écriture d'enfant. En regardant par-dessus son épaule, je vois les premiers mots, et je reconnais instantanément ce texte que non Florent m'avait dit qu'il était très important. Je ne l'ai pas deviné tout seul, hein. S'il n'était pas là, je n'aurais rien su. Et j'étais presque capable, à ce moment-là, je le lisais souvent, j'étais presque capable de le réciter à sa place. Et je vois cet homme abîmé dans sa lecture, en train de manifestement méditer sur ce texte, et puis il a fermé la chemise, et il est parti. Et je me suis dit, ah oui, lui, c'est ce texte terrible, une espèce d'objurgation un peu illisible pour un œil contemporain, bah pour lui, c'est son viatique, en fait, c'est sa ressource.
Et ça, c'était dans le métro parisien.
Zoé Varié sur France Inter.
Suzanne Priva, on n'a pas parlé d'une chose, c'est de la consanguinité. 8 familles depuis 2 siècles, enfin
oui.
Depuis 1872.
1892, effectivement, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que quand il y a 8 familles qui se reproduisent strictement entre elles en l'espace de 130 ans, ça pose souci. Donc on peut clairement parler de consanguinité, même si c'est une grande famille. Mais cette consanguinité a des conséquences dont Florent m'a parlé, dont d'autres m'ont parlé, dont un syndrome qui est connu même dans le quartier comme le syndrome des joues rouges. Même les habitants du quartier en ont entendu parler. Ce sont des enfants dont le seul symptôme visible sont des joues présidant un érythème. En fait, c'est une maladie métabolique assez rare, rarissime, qui se traduit notamment par une prédisposition au cancer juvénile ou précoce et tout un tas d'autres pathologies sous-jacentes, des propensions à faire des infections diverses et variées.
Qu'on retrouve en général chez les juifs orthodoxes.
Qu'on retrouve uniquement dans le reste du monde, dans certaines communautés isolées de juifs orthodoxes.
Et vous avez vérifié ça aussi, Suzanne Priva, et vous avez vu une mortalité
J'ai pu vérifier. Alors moi, je ne suis pas mathématicienne et je ne sais pas faire de proba, mais j'ai vérifié rapidement qu'effectivement, dans au moins une des familles, la mortalité était vraiment très précoce, de manière aberrante par rapport au reste de la société. Une espérance de vie d'environ 58 ans. Mais calculé, c'est calculé à l'arrache hein, sur une centaine de personnes. Mais c'est vraiment 22 ans moins que le reste de la société, c'est quand même énorme.
Énorme. Et vous les voyez, ces enfants, au jour rouge ?
J'en ai vu, je continue à en voir. Pas à tous les coins de rue, c'est pas dans toutes les familles, mais ça arrive. Ça arrive. Alors, on ne les abandonne pas, hein. Ce ne sont pas des enfants qui sont maltraités, on les soigne. Ils sont connus. La seule équipe de médecins au monde qui s'occupe des enfants au jour rouge est à Paris. Donc, ils sont clairement repérés. Mais pour l'instant, il y en a encore, bien sûr.
Alors, Suzanne Priva, avant qu'on se sépare, il y a deux passages un peu obligés dans cette émission. C'est le hit parade
oui.
De votre année, de l'année de votre journée particulière. Et pour 2014, on aurait pu vous mettre Kenji Girac, Katy Perry, Pharrell Williams ou Daft Punk, parce que il caracolait en tête du hit parade. Mais nous, on a préféré vous faire entendre un groupe qui a reçu à notre grand étonnement deux fois le disque de platine en 2014.
De graves blessures. Grâce à vous, nous avons ouvert des cœurs endurcis. Grâce à vous, nous avons donné un peu d'espérance.
Alors, qui sait ?
Alors, je serais bien affichue de vous le dire.
Alors, ce sont les prêtres.
Sous les prêtres ?
Le nom du groupe.
Des vrais ?
Oui, des vrais.
Ah, mais en soutane.
Oui, nom du groupe créé à l'initiative de Monseigneur Di Falco, qui chante sur la valse numéro 2 de Shostakovitch. Et là, il chante Amen.
C'est horrible. Bon, ce ne sont pas tout à fait mes goûts musicaux, on va dire.
Suzanne Priva, juste avant de se quitter, un cadeau.
Oui.
La voix d'un homme et un homme et un écrivain que vous aimez, je le sais. C'est Georges Perec.
Essayez de décrire une rue d'une manière vraiment très plate, très neutre, très simple. Et puis, essayez d'aller jusqu'au bout de cette description. En regardant ce qui se passe, disons, ce qui se passe, c'est-à-dire comment l'espace se met à fonctionner, comment il se met à vous arrêter, au contraire, comment il vous donne une impression de liberté ou de possibilité, et puis comment on peut jouer avec. Et on s'aperçoit que dès que l'on change quelque chose à ses habitudes spatiales, on est tout de suite extrêmement déconcerté, tout de suite, on rentre tout de suite dans quelque chose qui est profondément exotique, et que je n'appelle, il ne faut pas l'appeler l'exotique, il faut l'appeler l'endotique. Mmh. C'est-à-dire que de même qu'il faut, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'extraordinaire, c'est l'infraordinaire, ce qui est vraiment très en dessous de la réalité, ce qui fait le tissu de notre vie, ce qui fait le bruit de fond de notre vie et auquel on ne prête pas attention. Ce qui est bien avant la politique, les institutions, et même bien avant l'imaginaire, tout ce qui va nourrir ces choses-là, eh bien, ce sont des choses dont on ne parle pas. Ce sont ces choses-là qui doivent nous devenir sensibles.
C'était la voix de Georges Perec à propos de son livre Espace.
Espèce d'espace.
Et je me disais qu'il y avait une similitude entre vous, que vous aviez aussi d'une certaine façon essayé d'épuiser à votre façon cet espace, ces quelques rues du 20e arrondissement.
J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup gardé l'œil ouvert, oui, j'ai beaucoup écouté, cherché n'importe quelle trace. Je suis très sensible à l'imaginaire de Perec et à sa façon de regarder, de chercher à savoir ce qu'il y a derrière l'infime. Et j'avoue que c'est une écriture et une voix qui me bouleversent.
Est-ce que votre curiosité est rassasiée, Suzanne
Jamais.
Priva ?
Dieu m'en protège. Non, surtout pas.
Donc vous continuez, là, vous êtes partie sur une autre enquête, il y a quelque chose encore qui vous a titillé.
Je n'arrive pas à me détacher totalement de la famille, je dois bien l'avouer. Et puis bien sûr, oui, je suis aux aguets pour avoir un autre os à ronger.
Alors en attendant le prochain os à ronger, merci d'avoir
merci
passé
beaucoup.
Cette heure avec
merci
nous.
Merci à vous.
Votre livre, donc La famille, itinéraire d'un secret, est publié aux éditions Les Avrils.
Oui.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique Tiffany Battistel. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end.